Nous sommes absolument ravis que Gisèle Séguinger, qui porte le programme Urbanature 2, dont je suis co-directrice adjointe, ait accepté d'ouvrir cette journée. Donc nous lui laissons d'emblée la parole.
Merci beaucoup Diane et Carole pour l'organisation de cette belle journée donc dans le cadre d'Urbanature 2. Moi j'ai le plaisir de vous accueillir à la FMSH, Fondation Maison des Sciences de l'Homme de Paris. Alors pourquoi cette journée se déroule ici? Eh bien parce que nous avons un partenariat fort avec cette institution depuis une dizaine d'années. Nous avons commencé par un programme qui était un programme soutenu par l'Agence nationale de la recherche de 2013 à 2017, biolographe, savoir biologique dans la littérature du 19e siècle. Alors nous avons eu ensuite toute une série de programmes que je ne vais pas énumérer, et j'arrive donc rapidement à Urbanature 1, dont j'étais responsable. Urbanature 1, vous trouverez le site et je vous invite à le visiter parce qu'il est très riche. Vous trouverez un corpus, une bibliographie, vous trouverez des indications sur tout ce que nous avons organisé. C'était un programme qui était centré sur les villes, sur les centres-villes. Le sous-titre, savoir et culture de la biodiversité du 19e siècle au 21e siècle. Urbanature 1 est terminée depuis quelques mois et nous avons déplacé légèrement notre regard vers les abords des villes, vers le périurbain, d'où le programme Urbanature 2 qui a déjà son site ouvert, site qui va progressivement s'enrichir grâce aux membres de l'équipe, grâce aussi à tous ceux qui voudront bien nous envoyer des informations. Alors, c'est donc un nouveau programme qui est centré sur les abords, sur la banlieue, et il porte sur la même période, hein, du 19e au 21e siècle. Sa nouveauté, c'est qu'il intègre fortement maintenant une équipe qui avait déjà organisé une journée d'études dans le précédent programme, mais qui maintenant va nous organiser toute une série, nous espérons bien, de manifestations et qui participe aux autres manifestations. Donc c'est toujours un programme qui est interdisciplinaire, qui associe la littérature, fortement donc le cinéma, mais également d'autres disciplines. Nous avons des collègues qui sont des écologues du Muséum d'histoire naturelle de Paris, des collègues qui sont des géographes, des collègues qui sont des historiens des sciences, des historiens de l'écologie. Alors, ce programme va se dérouler environ sur deux ans et demi, et nous publierons absolument tout ce qui est organisé, hein, les journées d'études et les colloques. Vous verrez déjà sur le site que nous avons organisé un premier colloque d'ouverture à Madrid, en collaboration avec la Casa de Velázquez, un colloque qui portait sur les friches et qui s'intitulait « Friches et jardins ». Nous allons organiser un autre colloque au mois de mai sur les mauvaises herbes, des conférences, etc. Et puis, bien sûr, il y aura un grand colloque de fin de programme au mois de juin. Voilà, merci. Au mois de juin 2026, d'autres manifestations également. Nous avons un partenariat fort, non seulement avec Madrid, je l'ai dit, mais aussi avec l'Université de Milan. Et c'est au mois de mai, d'où mon hésitation, c'est au mois de mai qu'aura lieu un grand colloque également à Milan. Donc voilà, un programme interdisciplinaire avec toute une série de disciplines SHS et hors SHS et un programme international. Pour ma part, je m'arrêterai là parce que je pense que mes collègues vont maintenant avoir beaucoup de choses à vous dire pour vous présenter leur belle journée d'études. Merci à tous encore.
Merci beaucoup, Gisèle. Alors, comme vous l'a expliqué Gisèle, le cinéma n'avait été que ponctuellement appréhendé dans le programme Urban Nature 1, savoir culture de la biodiversité urbaine, savoir et culture de la biodiversité urbaine, principalement par le biais d'une journée d'études qui avait été co-organisée il y a quasiment un an jour pour jour, parce que je me suis rendu compte que c'était le 26 janvier 2024, co-organisée par Diane Arnaud et par Alice Leroy, et qui avait pour titre « Un herbier des villes, cinéma, photographie et art visuel ». Cette journée, elle s'articulait autour des jardins des futurs, de l'éco-critique à l'œuvre, de l'esthétique du verre et des lumières de la ville. Mais si le cinéma y était représenté, il l'était sans exclusif du fait de la présence de la photographie et des arts visuels. Donc avec Urban Nature 2, entre ville et campagne, évolution et hybridation, non seulement le cinéma fait son entrée dans chaque événement scientifique. Non seulement il a désormais son onglet Filmothèque et il va proposer des films sur le site, sur le carnet hypothèse.org, mais il devient aussi un objet d'étude à part entière de certains événements scientifiques, et c'est le cas avec cette journée éco-poétique de la vie périurbaine au cinéma. Je pense que vous avez tous le programme, sinon Apolline en a ramené un certain nombre. Cette journée va donc aborder essentiellement le cinéma français, muet, expérimental et contemporain, avec une ouverture vers une autre ère culturelle, en l'occurrence le Japon. En effet, aujourd'hui, nous allons pleinement nous intéresser à la manière dont le cinéma éclaire les modes d'habitation des territoires situés entre la ville et la campagne, et aux logiques écologiques qui les traversent, explorant les formes de représentation des cités, des banlieues et des modes de vie pavillonnaires.
Alors, merci Carole de nous avoir mené dans le périmètre cinématographique du périurbain. C'est une notion qui se révèle variable, hein, aussi bien donc sur le grand écran que dans le champ de la réalité, et nous n'avons pas hésité à partir de loin, puisque de bon matin,
nous partirons des territoires les plus éloignés du centre-ville, hein, situés aux confins donc des régions rurale. Puis donc au cours de l'après-midi, il s'agira de faire un détour donc en banlieue selon une acception du terme ouverte aux expériences et aux expérimentations. Alors plutôt que d'imposer le critère de la distance, nous avons voulu mettre en évidence en fait la tendance à la mobilité, qui est une caractéristique, nous semble-t-il, significative dans le mode d'apparition et de construction de l'environnement au cinéma. Alors que ce soit pour les films du matin, de la guerre 2008, hein, de Bertrand Bonello à Drive My Car, 2021 de Ryosuke Hamaguchi, que ce soit pour les films donc de l'après-midi, de Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe, 2001, de Rabat, Hammer, Zay Meshé, à la vie domestique, hein, 2013, donc 12 ans après, hein, Wesh Wesh, hein, d'Isabelle Sheishka. Les formes d'occupation du territoire au XXIe siècle, hein, font, dans ces films, la part belle au déplacement qui s'effectue entre ville et campagne, mais aussi entre la cité et la nature. Alors, en cela, cette journée d'études se rattache historiquement à l'éco-criticism, une nouvelle discipline qui a émergé dans le monde anglo-saxon, en s'intéressant à l'écriture de la nature dès les années 1960, et qui a abouti donc aux environs des années 2000, après plusieurs vagues successives, au développement fécond d'un nouveau champ d'études disciplinaires, l'éco-cinéma. Alors, en France, avec ce temps de décalage si précieux, favorisant le recul critique, il faut noter notamment la publication des travaux de Teresa Castro et de Marie Rebecki sur puissance du végétal et cinéma animiste en 2020, ainsi que la tenue en 2021 d'une journée fondatrice organisée par Gaspard Delon, Charlie Lewison, ici présent, et Émeric Panté, à l'Université Paris Cité. Une journée qui s'intitulait « Approche éco-critique dans les études cinématographiques en France ». Plus récemment, en novembre 2024, à la FEMIS, le groupe de recherche Utopie cinématographique s'est penché sur la transformation des territoires utopiques en paysages écotopiques. Alors, notre journée d'études à la FMSH a pour visée non seulement de mettre au jour les préoccupations éthiques et politiques soutenant la représentation dans les films de la vie périurbaine, mais surtout de saisir en quoi les enjeux écologiques affectent les coordonnées cinématographiques dès lors qu'il est question de filmer une zone et ses habitants, même de passage. Voici pourquoi nous avons privilégié l'approche éco-poétique, étendue au cinéma, une approche plus soucieuse de l'évolution des styles et des formes. Alors, lors de la journée d'études arts visuels du programme Urban Nature 1 en 2024, l'invitation d'artistes avait déjà permis de cerner au plus près la poétique de l'œuvre, le processus de création. Je redonne la parole à Carole pour qu'elle vous présente les critères qui ont présidé à la conception donc, de cette journée d'études intégralement vouée au cinéma, sous toutes ses formes.
Merci Diane. Alors cette journée d'études, elle a effectivement été conçue avec plusieurs objectifs bien spécifiques, essentiellement trois. Le premier vous a déjà été présenté, c'est-à-dire développer la dimension cinématographique du projet de recherche. Je pense qu'on a suffisamment insisté jusqu'à présent. Le deuxième objectif qui vraiment nous tenait à cœur était de convier et d'agréger de jeunes chercheurs passionnés par ces questions. C'est pourquoi la parole est donnée aux doctorants. En fait, toutes les communications du jour sont proposées par eux, toutes sauf une, puisque l'un des intervenants a soutenu sa thèse de doctorat depuis le dépôt de sa proposition. On le félicitera tout à l'heure. En décembre dernier, il est donc désormais docteur et il est même à présent ingénieur de recherche d'Urban Nature 2 jusqu'en juin 2026. Notre troisième objectif, assez important à nos yeux, consistait aussi à proposer deux séquences plus atypiques dans le cadre de manifestations universitaires, mais des séquences pourtant tellement importantes pour les recherches en études cinématographiques, deux séquences organisées en partenariat avec des institutions. Donc c'est, vous l'avez dans le programme, les séquences de fin de matinée et de fin de journée. Donc il y en a une, la première, qui est tournée vers le cinéma expérimental et la programmation avec le cinéma du réel, Festival international de films documentaires organisé annuellement par la BPI, la Bibliothèque publique d'information parisienne, en collaboration avec les Amis du cinéma du réel, mais aussi le Festival des cinémas différents et expérimentaux et l'association L'Icône. Pour l'autre séquence, donc celle de fin de journée, elle est tournée vers le cinéma muet et la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine avec le CNC, en l'occurrence le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Alors avant de donner la parole aux premières interventions, alors si vous dire qu'il y a malheureusement une annulation, Camille Boutor ne sera pas là ce matin, donc on a laissé un petit peu plus de temps aux deux intervenantes et la discussion pourra être plus longue également. Donc avant d'ouvrir cette journée, nous voulions évidemment remercier encore Gisèle Séguinger, le projet de recherche Urban Nature 2, notre laboratoire le LISA, Littérature, Savoir et Art, et bien sûr tous les intervenants de cette journée. Mais nous voulions aussi exprimer notre gratitude à la FMSH pour son accueil, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, également au Cinéma du Réel, au Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux et au CNC pour leur active contribution dans cette journée. Nous souhaitons aussi remercier GP Archives, Gaumont-Pathé Archives et la Cinémathèque française et à nouveau le CNC pour la mise à disposition gracieuse des films muets que nous allons visionner en fin de journée. Il y aura trois films muets projetés. Nous remercions également l'ingénieur de recherche de l'Université Gustave Eiffel que j'ai vu arriver tout à l'heure, Carmen Usti, pour son aide à la confection des affiches et du programme que vous avez normalement toutes et tous entre les mains. Et puis, bien sûr, la stagiaire du projet Urban Nature 2, Apolline Gauthier, pour son aide précieuse dans l'organisation de cette journée. Merci. Anna, je vous laisse vous l'installer, puis Diane, je te laisse la parole.
Ben, merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Donc, pour cette première session, donc jeune chercheuse, on regrette bien évidemment l'absence de Camille Boutor qui nous aurait permis de battre la campagne dans Rester Vertical. Bon, j'ai la faiblesse de prononcer Alain Guiraudy comme Alain Guiraudy, hein, mais vous savez que on peut déplacer cette prononciation donc dans son territoire. Et donc, de fait, sans plus attendre, je vais présenter Anna Mamonenko. Alors, Anna est doctorante en études cinématographiques en troisième année à l'université Gustave Eiffel. Elle est donc membre associée au laboratoire LISA, dont il a déjà été question. Sa thèse de doctorat, bien avancée, sous la direction donc de Carole Auroué, est intitulée « La poésie cinématographique, le rôle des textes dans les œuvres de Bertrand Bonello ». Alors, elle va nous parler plus spécifiquement aujourd'hui de l'errance existentielle urbaine, de l'errance en ville, pardon, et de l'exil dans la forêt, à partir d'une étude de cas. Anna a choisi donc le film De la guerre de Bertrand Bonello. Anna, la parole est à vous.
Merci beaucoup. Et déjà, avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs et les organisatrices de cette journée d'études pour cette magnifique opportunité de rencontrer aussi les autres jeunes chercheurs. Les autres chercheurs et chercheuses, et pour s'échanger et ainsi s'enrichir et s'inspirer aussi. Et après cette court remerciement, je passe à ma communication, à mon sujet d'aujourd'hui, errance en ville et exil dans la forêt, dans le film De la guerre de Bertrand Bonello. D'abord, je vous présente très brièvement Bertrand Bonello, l'auteur de ce film. Il est musicien de formation et il est auteur de 11 longs métrages, dont la plupart est marqué le cinéma français de 1998 et jusqu'à 2024. Il compose également la musique de ses films et écrit leurs scénarios. Et aujourd'hui, je veux parler de son film De la guerre qui est sorti en 2008 et qui se situe entre son film Thérésia, sorti en 2003, et Apollonite, Souvenir de la maison close, sorti en 2011. Le film De la guerre raconte l'histoire sur un réalisateur prénommé Bertrand, qui est en pleine crise existentielle. Et sa crise existentielle se déclenche par une errance en ville. Il cherche, il repère les endroits pour le tournage de son film. Dans le cadre de cette errance, il entre dans une boutique de pompes funèbres et il demande au propriétaire de rester après la fermeture. Il s'allonge dans un cercueil, il se renferme dans ce cercueil. Et cette expérience de la claustrophobie intense déclenche une quête existentielle dans le cadre de laquelle il retourne dans la boutique de pompes funèbres le lendemain et où il rencontre Charles, interprété par Guillaume Depardieu, qui le mène dans le manoir isolé dans la forêt où il rencontre une secte et sa dirigeante Huma, interprétée par Asia Argento. Et du coup, j'ai pas dit que le personnage principal Bertrand est interprété par Mathieu Amalric. Et vous le voyez maintenant sur le diapositif en train de vivre une des pratiques de la secte dans le royaume. Le royaume, c'est le titre du manoir forestier où il retrouve Huma et ses adeptes. Et aujourd'hui, je vais parler plus précisément de l'antithèse ville-forêt dans la poétique de l'espace dans ce film et comment il reflète la transformation intérieure du personnage principal. D'abord, je vais très rapidement aborder la genèse du film et surtout la genèse de l'intrigue et le rôle de l'espace dans cette dernière. Puis, je vais passer à l'analyse de l'entité ville-forêt dans l'espace et je vais finir avec l'autotextualité et l'intertextualité de l'espace et son rôle dans la poétique de la nature dans De la guerre. Et je passe à la première partie de ma communication. Le point de départ de l'écriture de ce film, selon Bunello, était la question « Qu'est-ce qui être empêché d'accéder à ses désirs ?» Et parmi les inspirations, il nomme aussi « De la guerre de Clausewitz » et les écrits de Guy Debord. En fait, « De la guerre de Clausewitz », il a découvert grâce à Guy Debord, mais il ne précise pas les ouvrages de Guy Debord qu'il a lus. Et aussi, pour aller un peu plus loin, il note aussi que Guy Debord lui a inspiré d'ajouter dans ce film le radicalisme et le militantisme du personnage principal. Ainsi, même si nous ne voyons pas dans le film une dimension politique, Bertrand Bonello s'est inspiré de radicalisme des années 80, des années 70 et des années 60, comme il n'y a pas de demi-mesure pour devenir heureux. Et Bertrand, le personnage principal, il doit aller très loin dans toutes ses décisions de sa vie, dans sa perception de la réalité autour de lui, être radical même dans ses sensations pour devenir heureux et pour retrouver le bonheur de l'existence. Aussi, selon les interviews de Bertrand Bonello, la forme, dès le début, elle était pensée comme un western où le personnage principal arrive dans une ville à cheval, il rencontre des gens, il vit les événements, il repart de cette ville avec le même cheval, il est transformé. L'intrigue ainsi était pensé déjà comme un conflit intérieur où Bertrand cherche à accéder au désir et se libérer des contraintes sociales. Mais ainsi, nous voyons déjà cette dimension de mouvement, de la recherche et cette dimension spatiale aussi, où le personnage doit se déplacer et ces déplacements reflètent ces changements intérieurs. Selon Emmanuel Didier, la recherche de bonheur, et c'est ce que nous voyons dans le film, la recherche de bonheur est un combat et une lutte sans relâche où il s'agit de vaincre bataille après bataille toutes les résistances héritées du schéma de pensée traditionnel. Et effectivement, toute l'emploi du temps des adeptes de secte où se fait entraîner Bertrand, le personnage principal, est très bien organisé. Pour accéder au désir, il faut pratiquer les exercices, il faut courir dans la boue, par exemple, il faut prendre les drogues et danser de la manière extatique dans la forêt, en plein air, et tout est très bien réglementé et presque aussi bien organisé comme l'armée dans la secte que nous voyons dans le film. Je passe à la deuxième partie de ma communication et sur la structure de l'espace dans De la guerre. Je vais commencer par la ville. La ville se présente au début du film comme un espace très bruyant, avec beaucoup de chambres représentées par les espaces clos. C'est la boîte de nuit, avec la musique très forte, l'appartement de Bertrand où il ne sait pas quoi faire, il regarde la télé, il contacte ses amis par le téléphone portable, après il annule le rendez-vous. Et aussi le magasin de pompes funèbres, une laverie automatique, les espaces clos. Également, la communication dans la ville, en ville, se passe par le téléphone portable et plus précisément avec les textos, avec les messages. même avec sa compagne, par exemple, il échange par les messages et nous la voyons pas au début du film. L'atmosphère en ville est oppressante et le bruit de la rue est très présent dans les espaces même intérieurs et souvent il couvre les dialogues et les conversations des personnages. On n'entend presque pas de temps en temps qu'est-ce qu'ils disent à cause du bruit de la rue représenté avec les sirènes, avec les gens et avec les voitures. Et ici, j'ai mis un petit morceau des bruits de la ville juste pour illustrer mes propos. Voilà. Et dans cette partie aussi, je fais un petit retour sur l'intrigue principale du film, parce qu'en fait, les événements sont vraiment très peu nombreux dans de la guerre. Et l'un des événements plus importants qui déclenche l'intrigue principale du film, c'est le moment quand Bertrand se fait enfermer dans un cercueil. Ici, nous voyons que, au niveau métaphorique, pour accéder au royaume, à l'espace plus naturel, sans les contraintes sociales, pour où on peut devenir heureux et devenir libre, il faut vivre un mort symbolique, il faut passer par un cercueil, et ainsi la boutique des pompes funèbres devient une sorte de portail pour accéder à l'espace naturel de cette atmosphère oppressante de la ville. Et ici, je fais juste un petit retour à la citation Lérance de Mons, Alain, le chercheur et l'urbaniste, qui écrit que l'errance urbaine permet une sorte d'échappée mentale et physique à l'intérieur de la ville, mais aussi elle est le mouvement de la ville qui s'effondre sur ses bordures en ouvrant une béance. En ce qui concerne de la guerre, on ne peut effectivement suggérer que avec l'errance en ville de Bertrand, du personnage principal, nous observons son échappée mentale, mais en ce qui concerne le mouvement de la ville, dans De la guerre, la ville est très figée par rapport aux espaces naturels qui s'apparaissent plus tard dans le film. Et cet mouvement de la ville est plutôt présent dans l'espace, dans les dimensions sonores urbaines. Et le royaume, le manoir isolé dans la forêt, est un lieu naturel de la libération et de la transformation du personnage principal et pas que, aussi les autres adeptes de la secte, où le téléphone portable disparaît, par exemple, et les conversations souvent non-verbales aussi se passent entre les adeptes. C'est un retour aux sources, où la terre et les sensations sont au cœur de l'expérience, notamment dans les expériences des adeptes, qui sont très liées à la terre et aux éléments naturels, de l'eau, du sable, de la boue. Et ici, je voudrais présenter la théorie de Estelle Bayon, qui parle du cinéma de l'humilité, où le terme humilité se présente dans le sens de la modestie, où la nature joue un rôle narratif essentiel dans le récit. Et par exemple, elle peut présenter aussi l'état intérieur des personnages principaux. Selon Estelle Bayon, pour avoir une expérience du monde, les personnages s'approchent à la nature. Par exemple, dans les moments d'extase, ils peuvent tomber sur la terre, à toucher les éléments naturels, de l'eau, les fleurs, les arbres, et interagir avec eux et devenir ainsi eux-mêmes un élément de la nature. Ainsi, le terme mêlété désigne un cinéma qui cherche à retrouver une expérience du monde, à y élever et naître et l'habiter pleinement. Et c'est ainsi de la guerre de Bertrand Bonello entre dans le cadre du cinéma de l'humilité parce que le personnage principal Bertrand et les autres personnages, les autres adeptes de la secte du Ma, ils revivent cette expérience naturelle et il y a des longues séquences consacrées à leur interaction avec la nature et ainsi la nature devient un élément narratif important qui permet d'avancer l'intrigue parce que à travers l'espace et le changement de l'espace et l'interaction avec la nature, nous observons le changement intérieur, la transformation de Bertrand. Et je voudrais montrer un petit extrait des pratiques spirituelles des adeptes de la secte pour illustrer mieux mes propos parce que il est vraiment compliqué de les décrire. Ils sont assez particuliers. Également, l'espace sonore et aussi ce fait naturel. Nous entendons les bruissements de la terre, des feuilles, des chants des oiseaux, mais également Bonello met la musique classique dans le manoir et aussi les compositions selon le sujet du film, c'est la musique que Uma, la dirigeante de la secte, compose, mais en fait, c'est la musique, dans la vraie vie, composée par Bertrand Bonello lui-même. C'est la musique électronique qui est très minimaliste et assez monotone. Au niveau visuel, les couleurs choisies dans le manoir sont également naturelles en ce qui concerne, par exemple, le vêtement des personnages. C'est beige, marron, vert, bleu, et à la fois il faut un appel à l'esthétique militaire parce qu'on voit souvent les pantalons cargo par exemple ou une sorte d'uniforme des adeptes, mais aussi aux couleurs naturelles de la nature. Et je passe à la dernière, troisième partie de ma communication qui aborde l'autotextualité et l'intertextualité de l'espace dans ce film. Le film s'ouvre par une épigraphe tirée de Bob Dylan. Si je n'étais pas Bob Dylan, je penserais sûrement, moi aussi, que Bob Dylan a beaucoup de réponses. Et le personnage de Bob Dylan devient un cadre, en fait, selon lequel on peut voir la transformation intérieure de Bertrand, du personnage principal. Parce qu'après, il évoque Bob Dylan dans une des conversations avec une des adeptes du secte, Marie, où il dit qu'il pense que son malheur, il est malheureux parce qu'il ne peut pas chanter comme Bob Dylan, parce que la personne qui peut produire le sublime, un son si immense, ne peut pas être malheureux. Mais dans la deuxième partie du film, on voit Bertrand prendre la guitare et chanter. Et ainsi, nous comprenons qu'il est transformé en fait, il s'est libéré des stéréotypes, des préjugés sur lui-même, et il est devenu, il a retrouvé son bonheur. Également, dans la dernière séquence du film, avec son retour en ville, parce que dans la dernière séquence, nous voyons Bertrand assis sur un banc en plein rue parisienne. Il est heureux. Et cette dernière séquence est accompagnée aussi avec une chanson de She Belongs to Me de Bob Dylan. Ainsi, nous comprenons que maintenant, les plaisirs appartiennent de nouveau à Bertrand, du personnage principal. Les autres références qu'on trouve dans De la guerre, surtout Existence de David Cronenberg qui porte sur le mélange d'illusions et de la réalité dans le film, dans le cinéma. Film Fantôme, le recueil qui sort beaucoup plus tard, en 2014, le livre des scénarios non filmés de Bertrand Bonello. Dans De la guerre, dans une des conversations de Bertrand, pardon, une des conversations, Bertrand raconte l'histoire sur un homme qui se fait casser le nez, il le refait à la modèle du nez de sa campagne. Après, elle se fait opérer entièrement pour lui ressembler. Et comme ça, elle se disparaît en elle. Et en fait, après, beaucoup, on dirait 6 ans plus tard, on redécouvre ce sujet dans le film, dans le livre Film Fantôme de Bertrand Bonello. C'est un vrai scénario qui n'était pas réalisé. Aussi, Bertrand, il est hanté par les images cinématographiques parce qu'il voit des cauchemars tirés du film précédent de Bertrand Bonello, Thérésia. Et dans la deuxième partie du film, Bertrand revit une expérience cinématographique dans un espace naturel, dans la forêt. Et cette longue séquence, je vais montrer une partie, mais pas entièrement, parce qu'elle dure une vingtaine de minutes. Bertrand, il essaye de tuer Colonel Kurtz, ce qui nous renvoie à l'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Et j'ai encore du temps. Je vais montrer cette séquence et après, je vais présenter mon analyse. Dans cette séquence, Bertrand, qui passe une partie, en fait, qui passe en ce moment son existence dans la forêt, qui a à peu près plus d'avance dans cette forêt, dans cette recherche de Colonel Kurtz, la forêt devient une sorte de jungle parce qu'on commence à atteindre les bruits des singes, par exemple, d'un tigre. C'est pas du tout la forêt parisienne d'Île-de-France. En même temps, cette séquence est interrompue avec des cadres où Bertrand est allongé sur le lit, les yeux bandés à côté du mât. Et comme ça, on comprend qu'en fait, tout ça, c'est irréel. C'est une sorte d'illusion qui est là. Et c'est compréhensible parce que Bertrand, selon le sujet du film, il est réalisateur. Évidemment, il est hanté par les images cinématographiques. Mais ce qui est important, c'est plus il se rapproche à la nature, plus il part de la ville et se rapproche aux espaces naturels, plus cet espace cinématographique prendre de la place, parce que au début, la citation qu'on a en ville, c'est Bertrand qui regarde la télévision, et au fond, nous voyons Existence de David Cronenberg. Et à la fin du film, l'espace cinématographique prend vraiment le relais, et on a du mal à comprendre que c'est pas la réalité et c'est une illusion. Il faut vraiment suivre la séquence pour voir cette petite intervention de la vie réelle où Bertrand est allongé sur le lit. Et Sophie Vallon, dans son analyse des films, de la filmographie de Bonello, il propose une lecture assez alternative, je dirais, de ce film. Elle écrit qu'en fait, peut-être dans cette séquence, la dernière, Bonello nous, une des dernières séquences, Bonello nous invite à revivre cette expérience de spectateur quand, en regardant un film, on retrouve nos sensations de la vie, des bruits, devient plus fort. Et la toute dernière séquence où Bertrand est assis sur un banc et il observe les gens qui passent, il entend un peu autrement. Nous supposons les vies, les zones urbaines, c'est peut-être la sensation que certains d'entre nous possèdent après une sortie d'une salle de cinéma. Mais également, en même temps, on peut avoir cette expérience du monde à travers l'interaction avec la nature, avec les éléments naturels et aussi peut-être avec après une expérience cinématographique. Et c'est pour ça, cette séquence qui fait une référence à l'Apocalypse Now réunit en même temps cette dispersion de l'homme dans la nature, de Bertrand qui fait partie déjà de cet espace naturel et en même temps qui cite, qui montre une expérience cinématographique très forte qui change la vie du personnage principal. Et je vais finir avec juste pour réunir les idées que Bertrand Bonello met en question notre rapport à la nature et à nos désirs en nous offrant un film où la réalité se déploie à travers l'expérience de la nature, mais également nous voyons des différentes lectures de ce film comme une un rapprochement à la nature, aux espaces naturels à travers lesquels nous voyons l'évolution de la transformation intérieure de Bertrand, mais aussi cette analogie à l'expérience cinématographique qui se réunissent en fait dans la séquence où Bertrand vit l'expérience du personnage principal de l'Apocalypse Now. Merci pour votre attention. Je serai ravie de répondre à vos questions. Et voilà ma bibliographie aussi. Et si jamais, n'hésitez pas à me contacter. Je vais partager également mes références si un des articles vous intéressait.
Merci Anna pour ce premier déplacement qui se clôt par un retour en ville. Je vous propose peut-être de céder la place à Aya, notre deuxième intervenante. Hein, et après, nous partagerons un temps de discussion où les questions fuseront à la fois pour Aya et pour vous. Aya, je vous laisse vous installer. Alors, Aya Motegi, que nous remercions comme Anna d'être là, est donc doctorante en Visual Studies et en études cinématographiques à l'université donc Paris-Cité. Comme Anna, elle est en troisième année. Dans le cadre de sa recherche donc doctorale, elle vise à théoriser donc l'esthétique visuelle du cinéma japonais après le grand tremblement de terre de l'est du Japon donc de 2011. Donc sa thèse, hein, co-dirigée par Martine Beugnier, que je salue bien, oui, et par moi-même, s'intitule « Viewing the Images of Disasters, Visual Experience and Cinema After the Great East Japan Earthquake ». Donc sa thèse est écrite en anglais. Hein. Je ne sais pas, Aya, si c'est votre première communication en français. En tout cas, vous avez fait l'effort d'embrasser notre langue hein, pour cette journée d'études. Et vous allez donc nous parler en français d'une réflexion autour de l'eau, hein, puisqu'il s'agit de cartographier l'imaginaire écologique post-catastrophique dans deux films donc de Ryosuke Hamaguchi. Aya, la parole est à vous.
Merci beaucoup à toutes les organisatrices de cette journée d'études et merci encore à mes directrices de ma thèse, Madame Diana Noor et Madame Martine Bounier pour votre soutien académique et professionnel. Alors, je vais commencer. Cette présentation examine l'imaginaire écologique post-catastrophique chez le réalisateur japonais contemporain Ryusuke Hamaguchi à travers l'analyse des films Asakura 1 et 2 et Drive My Car en mettant l'accent sur la représentation des zones périurbaines. Par l'imaginaire écologique, j'entends l'imaginaire relatif à l'habitation humaine, comme le préfixe de éco signifie oikos, qui veut dire habitation ou maison en grec. Par post-catastrophique, j'entends la catastrophe du grand séisme de l'Est du Japon de 2011. Il s'agit de la triple catastrophe qui s'est produite dans le nord-est du Japon, région de Tohoku, en 2011. Un tremblement de terre de magnitude 9 accompagné d'un tsunami massif et l'accident nucléaire de Fukushima qui s'en est suivi. Le mot catastrophe peut évoquer les films apocalyptiques de blockbuster hollywoodien, mais je m'intéresse davantage à ce que signifie vivre après la catastrophe plutôt que à la destruction immédiate. Cette question prend de plus en plus d'importance avec le temps, puisque plus de 13 ans se sont écoulés depuis le séisme de 2011 et que d'autres catastrophes naturelles se produisent continuellement au Japon. Que entend par périurbain? D'abord, selon Mathias Kvistrom, professeur en architecture paysagère, ce terme désigne, je cite, le périurbain est généralement défini comme l'interface entre les zones rurales et urbaines à l'intérieur de l'ombre urbaine, c'est-à-dire la zone d'influence de la vie mesurée comme la banlieue pavillonnière ou comme une ceinture spatialement définie autour de la ville, au-delà de ses banlieues. Fin de la citation. Kvistrom aborde principalement les paysages périurbains en Europe. Cette définition s'applique en partie au Japon, mais plutôt que périurbain ou toshikinko en japonais, les trois termes sont plus familiers aux japonais. Premièrement, New Town, ville nouvelle, c'est-à-dire les zones suburbaines développées pour répondre à la surpopulation urbaine pendant la période de croissance économique rapide des années 1950 à 1970. Deuxièmement, Betang, ville dortoir, c'est-à-dire les zones résidentielles suburbaines dont les habitants font la navette vers les grandes villes. Troisièmement, étalement urbain, c'est-à-dire le phénomène d'extension à la périphérie des villes, souvent sans planification attentive. Il y a une tendance que l'étalement urbain s'étend à des zones exposées à des risques de catastrophe. Dans Asako 1 et 2 et Drive My Car, les zones périurbaines apparaissent comme des espaces significatifs dans le contexte post-catastrophe naturelle. Ces films, comme d'autres œuvres de Hamaguchi, se déroule souvent au bord de l'eau, comme dans Touching the Skin of Airiness et L'humain n'existe pas. Dans la trilogie documentaire de Tohoku, co-réalisée avec Ko Sakai, on retrouve des paysages réels des zones côtières sinistrées. Si j'ai choisi Asako, Aindu et Drive My Car pour cette présentation, c'est parce que je pense qu'ils nous incitent à réfléchir à la cohabitation entre les humains et la nature en mobilisant à la fois l'imaginaire des lieux diégétiques et la mémoire historique et collective des sites de tournage. Les personnages de deux films, reviennent sur le passé sans se limiter sur la catastrophe de 2011 à travers leur voyage dans l'archipel japonais. Du surcroît, il convient de noter que Hamaguchi choisit des lieux éloignés du centre-ville comme destination de ses voyages, par exemple les berges de la rivière, les brises-lames, une usine de traitement de déchets au bord de la baie ou une colline enneigée, et que les plans dans lesquels se déroule le récit, le dialogue et l'écoute contiennent de l'eau, élément responsable des catastrophes naturelles au Japon. J'ai identifié en fait les deux lieux où ont été tournées les scènes de Drive My Car. D'abord, l'usine d'incinération dans le district de Yoshijima, de la ville d'Hiroshima et Akabira à Hokkaido. Vous pouvez voir les images satellites dans ces lieux sur la diapo. Ils se situent à la frontière entre l'environnement urbain et naturel, dans des zones qui peuvent être considérées comme périurbaines. En faisant référence aux questions contemporaines de développement périurbain, mon analyse mettra en lumière l'imaginaire écologique post-catastrophique de Hamaguchi. D'abord, Asako 1 et 2. Ce film-là raconte une histoire d'une jeune femme, Asako, qui oscille entre deux hommes qui se ressemblent. Elle rencontre d'abord Baku à Osaka et tombe amoureuse, mais il disparaît sans explication. Des années plus tard, elle s'éprend de Ryohei à Tokyo, avec qui elle participe à des activités bénévoles dans des zones sinistrées du Tohoku. Lorsque Ryohei accepte une invitation à Osaka, Asako rêve d'une vie stable avec lui là-bas. Cependant, lorsque Baku réapparaît, elle trahit Ryohei et s'enfuit avec Baku avant de finalement retourner auprès de Ryohei. Dans la séquence finale, Ryohei et Asako, qui ne sont pas encore réconciliés, observent la crue de la rivière depuis leur nouvelle maison à Osaka. Symboliquement, cette scène reflète leurs incertitudes relationnelles et les risques environnementaux du lieu où ils décident de vivre. Je vais montrer le premier extrait. Okay. Suite aux inserts de la rivière en crue, vient le plan d'ensemble du couple qui la regarde de face. Non. Liu Hei dit, elle est sale cette rivière. Et Asoro répond, mais c'est beau. L'eau trouble se sert d'une métaphore de leur avenir incertain et de leur vulnérabilité face aux catastrophes naturelles. C'est-à-dire que le couple peut être les potentielles personnes vulnérables aux catastrophes, à Saigai Jakusha en japonais. Le terme personne vulnérable aux catastrophes comprend non seulement les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les handicapés qui ont des difficultés à évacuer volontairement au cas de catastrophe, mais aussi les jeunes qui vivent dans des zones risquées et qui ignorent ou oublient les catastrophes passées. En effet, dans la scène où le couple visite la première fois la maison à Osaka dans la deuxième partie du film, Liu Hei mentionne le risque d'inondation. Cependant, Asako ne semble pas s'en préoccuper. Le choix de ce couple de s'installer près d'une rivière, malgré le danger, illustre un problème social contemporain où des zones risquées deviennent attractives en raison de leur commodité. Des trains circulent le long de la rivière et il y a de nombreux parcs où des prix immobiliers bas. Si une catastrophe se produit, la construction de logements se poursuit et des jeunes qui ne connaissent pas le territoire s'y installent. Ainsi, les catastrophes reviennent au moment où l'on s'y attend le moins, comme l'a dit un physicien japonais Terahiko Torada. Des catastrophes de grande ampleur frappent désormais quelque part au Japon presque tous les ans. Cette situation reflète le fait que l'activité humaine rétrécit l'espace dans lequel nous pouvons habiter, comme chercheuse en cinéma Jennifer Fay l'a mentionné en tant que caractéristique de l'anthropocène. Jean-Luc Nancy a également observé que le modèle capitaliste qui rend tout interchangeable entraîne une réaction en chaîne d'impact interconnecté en cas de catastrophe majeure. Comme l'a remarqué un journaliste encore de la NHK, le radiodiffuseur public du Japon, les inondations sont désormais une fatalité pour les habitants des zones urbaines et périurbaines. Il est également à noter que Baku est présenté comme quelqu'un qui n'est pas pleinement conscient des conséquences du tsunami de 2011. Dans la scène de l'aube devant le brise-larmes de Miyagi, bien que les vagues et les vents rugissent au champ, Baku dit « C'est dingue, la mer est vraiment de l'autre côté, on n'entend même pas les vagues. » C'est alors que Asako lui annonce soudainement qu'elle doit rejoindre Liu Hei. En ce sens, Baku a permis à Asako de se rendre compte de sa culpabilité d'avoir presque abandonné Tohoku une fois. Car déménager à Osaka avec Liu Hei signifierait que la jeune femme aurait du mal à participer aux activités de bénévole à Tohoku qu'elle menait jusqu'alors avec lui à cause du temps de trajet beaucoup plus long. Regardez la diapo, le temps nécessaire pour se rendre à Yuriage dans la préfecture de Miyagi sera doublé. Si Asako a des enfants à l'avenir, il lui sera encore plus difficile de continuer à faire du bénévolat. Cela signifierait qu'elle ne tiendrait pas la promesse qu'elle a faite à son ami, Monsieur Yakawa, victime de la catastrophe, de continuer à venir faire du bénévolat. Mais plus tard, Asako emprunte de l'argent à Monsieur Yakawa pour retourner à Osaka et lui promet de revenir à lui rendre l'argent. Le nom de Baku signifie hoche, mais aussi tapir, un animal considéré comme mangeur du rêve. Baku, en association avec le tapir, déclenche les deux tournants de l'esprit de Asako, la réveillon de son rêve de la vie aisée dans laquelle les désastres passés pourraient être oubliés. Ainsi, l'intrigue qui comporte le voyage de Tokyo à la préfecture sinistrée de Miyagi et ensuite le retour à Osaka peut être considérée comme une éducation sentimentale entremêlée d'un conte moral et écologique afin de lui rappeler le passé de la catastrophe et les victimes qui continuent à vivre dans le même pays. Si la contemplation de la nature ou de la mer conduit à la transformation interne intérieure de Asako, la scène finale du film semble montrer la nature donnant au couple une leçon écologique. La séquence se poursuit du point de vue de Asako ou de Liu Hei, mais le dernier plan est un contre-champ des personnages principaux regardant la rivière en cou, saisie de façon. Dans une interview, Hamaguchi a révélé qu'il avait demandé au compositeur de musique Tough Beat de créer un thème musical pour le générique de fin, avec l'idée que la rivière apparaisse à la fin du film « Regarde le couple ». En supposant que le contre-champ final soit du point de vue de la rivière, les différences visuelles entre le paysage vu par les protagonistes et celui vu par la rivière deviennent significatives. Dans le plan qui saisit les personnages principaux de dos, la rivière et les maisons sur la rive opposée ainsi que les montagnes sont visibles à l'arrière-plan. En revanche, du point de vue de la rivière, il n'y a pas de paysage naturel à l'arrière-plan. Les maisons de la rive opposée et la rivière ne sont que des images indistinctes qui se reflètent dans les fenêtres, apparaissent dans un cadre imbriqué et séparé des protagonistes. Cette prise de vue suggère visuellement que le mode de vie commode adjacent à la nature est une image, une idée humaine basée sur la séparation des humains et de l'environnement naturel et que cette idée n'est que incertaine. Au lieu d'être visible, la nature affirme sa présence sous la forme du grondement d'une rivière à ocean. Ce dernier plan de la cohabitation homme-nature semble appeler le public à écouter le voix de la nature. Dans Asako 1 et 2, la rivière en creux confronte les protagonistes à une réalité inévitable, une réalité imprégnée des ombres des désastres passés et des risques futurs, tout en faisant écho aux doutes qui pèsent sur leurs relations. Dans les deux scènes liées à l'eau de le Drive My Car, les protagonistes évoquent et racontent les catastrophes historiques, collectives et personnelles du passé. L'histoire de Drive My Car se déroule autour de Kafuku, un acteur de théâtre et dramaturgie qui a perdu sa femme à cause d'une maladie. Il rencontre une chauffeuse personnelle pendant la préparation d'un festival de théâtre à Hiroshima, et à travers ses interactions avec elle, Kafuku apprend à accepter la douleur de l'infidélité et de la perte de sa femme. Dans la première séquence en question, les spectateurs voient les deux protagonistes, Kafuku et Misaki, marcher dans un couloir de l'usine d'incinération dans le district de Yoshijima, de la ville de Hiroshima. Cette usine, Nakakojo, et a été construite en 2004 sur l'estuaire. Misaki explique à Kafuku que le couloir ouvert est conçu pour prolonger jusqu'à la mer la ligne d'axe de la paix reliant le dôme de la bombe atomique Genbaku Dome et le cénotaphe. Kafuku se retourne deux fois pour voir le dôme de ses propos yeux, mais les deux monuments au loin sont flous et il est impossible de les identifier. Kafuku demande ensuite à Misaki pourquoi elle gagne sa vie à Hiroshima. Elle répond que sa ville natale a été frappée par des précipitations massives il y a 5 ans. La maison de ses parents a été détruite par le glissement de terre qui s'en est suivi et qui a tué sa mère. Ainsi, une couche de catastrophe fictive et racontée se superpose au lieu de la catastrophe réelle de la bombe atomique. La composition des plans qui utilisent habilement la structure du bâtiment est très intéressante, mais comme le temps est limité, je me concentre sur la comparaison faite par Misaki des déchets ramassés par le bras de la machine géante avec de la neige, parce que cette analogie constitue l'imaginaire écologique post-catastrophique chez Hamaguchi, qui porte sur la coexistence du sale et du propre dans la vie humaine. Je vais montrer le court métrage à court extrême. En fait, la neige apparaît à la fin du film lorsque Kafuku et Misaki visitent le village fictif de Kamijunitaki à Hokkaido, où se trouvait la maison de famille de Misaki. Cette scène est importante. Les deux personnages y partagent leurs fautes et leurs souffrances du passé. En route de Hiroshima vers le village de Kamijunitaki, Misaki et Kafuku avouent qu'ils n'ont pas pu sauver leurs proches. Une telle conversation intime n'est possible que parce qu'ils doivent passer un long moment ensemble, environ une journée, dans l'espace confiné de la voiture. C'est en fait ce que Hamaguchi et Sakai ont découvert au cours du processus de création de la trilogie documentaire de Tohoku. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que Kafuku qui était auparavant assis sur la siège, sur le siège arrière, hein, s'installe sur le siège passager et que les deux s'assoient côte à côte. Leur échange est cependant montré en gros plan séparé et leurs visages respectifs de face. Leur confession se déroule en plan d'ensemble dans le village de Kamijunitaki. Après avoir grimpé la colline, les deux protagonistes contemplent les ruines de la maison effondrée de Misaki, ensevelies sous la neige. Cette dernière jette, une à une, les fleurs qu'elle a achetées en chemin et raconte que sa mère, qui travaillait dans le milieu de la nuit, avait une autre personnalité appelée Sati, qui est apparue après que sa mère l'ait maltraitée. Elle a vu que lorsque la maison s'est effondrée, elle a réussi à s'échapper, mais n'a pas sauvé sa mère et Sati. Le ciel couvert et les collines enneigées forment une toile de fond blanche. Ce superbe paysage enneigé nous rappelle la comparaison faite par un critique d'art John Berger des paysages avec un rideau masquant les, je cite, difficultés, les réussites et les accidents, fin de la citation, des habitants. Les injustices sociales et environnementales peuvent faire partie de ce qui est caché derrière ce rideau. À travers le récit de Misaki, des taches visuelles et symboliques apparaissent peu à peu sur le rideau de neige. Je vais montrer l'extrait. Dans cette scène, Misaki descend de la colline, fait un petit trou avec sa main et y place la cigarette qu'elle fumait, l'utilisant comme bâton d'encens pour le deuil de sa mère. Elle dit ensuite que jouer le rôle de Sati était un moyen pour sa mère de survivre à la réalité infernale de sa vie. Le récit de Misaki est censé être dirigé vers Kafuku, mais son regard n'est pas dirigé vers lui. Celui-ci est placé derrière Misaki, comme dans une séance de psychanalyse, et sa silhouette est rendue floue. Misaki se retourne alors vers Kafuku et lui avoue qu'elle savait que laisser mourir sa mère signifierait laisser mourir Sati, mais qu'elle n'a toujours pas bougé. À ce moment-là, la fonte partielle de la neige expose une partie de la surface de la montagne, créant une tache sur le fond blanc. Dans le plan suivant, Misaki gravit la colline et Kafuku lui tend la main. Elle dit que sa main est sale, ses mots symbolisent sa faute. Lorsque cette dernière rejoint Kafuku au sommet de la colline, l'arrière-plan passe d'un paysage enneigé à un quartier résidentiel flou au pied de la montagne. La confession de Kafuku se poursuit. Alors qu'ils s'embrassent, le plan d'ensemble révèle une vue de l'endroit où ils se trouvaient. Devant les personnages principaux, des maisons sont éparpillées et plus loin, le paysage périurbain s'étend au loin. Comme ça. La tache symbolique dans le paysage enneigé nous renvoie ainsi aux fautes du passé des personnages avec lesquels, comme le suggère cette séquence, il est loin d'être facile pour eux de se réconcilier. Comme le montre le dernier plan d'ensemble, la tache elle-même fait partie du paysage, ce qui implique que ce paysage est constitué des choses censées être laides, haine et faiblesse de cœur, qui contient la vie humaine. De plus, le changement de taille du plan dans cette dernière séquence dirige, en parallèle à la narration des personnages principaux, l'attention du spectateur vers les vies périurbaines, tout en lui faisant imaginer les aspects dissimulés par le rideau du paysage. J'aimerais conclure ma présentation en ajoutant une observation sur la comparaison faite par Misaki entre les déchets et la neige. Les déchets, qui sont censés être sales, et la neige, qui est censée être immaculée, sont opposés en termes d'image originale que les mots impliquent. Et à première vue, il semble contradictoire de lier les deux. On peut dire la même chose de la réponse de Asako dans la scène finale de Asako 1 et 2, où elle qualifie la rivière Bouze de belle. Cependant, je pense que l'imaginaire écologique chez Hamaguchi se fonde sur l'idée que le sale et le propre ou le pur coexistent sans contradiction dans la vie humaine. Une idée similaire peut également être trouvée dans la question de l'infidélité qui est commune aux deux films que j'ai discutés. Dans le plan de l'usine de traitement des déchets, le bras mécanique géant, accompagné des sons mécaniques qu'il émet, dépasse en taille les figures de Kafuku et Misaki, qui regardent le bras à travers la vitre au bout du même cadre. Ce plan montre visuellement à quel point nos vies pratiques produisent des déchets, à quel point nous avons besoin de l'aide de la technologie moderne et des machines pour nous en débarrasser. Les déchets sont visuellement similaires à la maison de Misaki, effondrée et ensevelie sous la neige. De surcroît, l'action de Misaki de jeter des fleurs vers les débris de la maison nous rappelle également qu'elle a jeté quelque chose. Merci. Merci. Cependant, cette dernière prend également le deuil de sa mère et de Sati en creusant la neige de sa propre main et en plaçant une cigarette sur le sol au lieu d'un sens. Voilà. Vivre en harmonie avec la nature à notre époque contemporaine, marquée par la fréquence des désastres naturels, peut exiger une reconsidération des cadres de pensée opposant le propre et le sale. En effet, il est impossible d'échapper aux éléments que nous préférons ignorer ou refuser de reconnaître, qu'il s'agisse des déchets du passé ou des risques de catastrophes naturelles, simplement en les dissimulant comme des choses sales. Il va sans dire que nous ne pouvons pas vivre en dehors de cette terre. L'acceptation de cette contradiction écologique est rendue possible dans le cinéma de Hamaguchi par les récits des personnages qui se déplacent dans l'archipel japonais. Rappelons que dans le plan général Akami Junitaki de Drive My Car, où se déroulent les récits, les personnages et la nature coexistent dans le même cadre. Le cinéma de Hamaguchi cartographie ainsi la vie quotidienne et les souvenirs de catastrophes ainsi que des catastrophes imaginaires en combinaison avec des plans de paysages. Ces films constituent des cartes imaginaires rendues possibles précisément grâce à la technologie cinématographique qui comprend la durée du récit. Merci beaucoup pour votre attention.
Alors, merci beaucoup pour ces deux interventions. Hein. On regrette de ne pas avoir pu avoir un trio féminin, mais peut-être que le fait de ne pas avoir eu un trio féminin aura eu peut-être pour effet de rendre encore plus prégnant, remarquable le lien entre vos deux interventions. Hein. Peut-être que ça donnera lieu d'ailleurs à des questions dans la salle, hein. Mais il me semble que toutes les deux, vous avez insisté sur la dimension métaphorique, hein, donc des déplacements entre la ville, la campagne et les territoires périurbains, en vue d'éclairer donc la transformation donc intérieure du personnage masculin ou plutôt féminin, hein, dans le cas du cinéma de Hamaguchi. Alors, il semble néanmoins, et peut-être d'ailleurs que ça sera l'objet d'une discussion, qu'il y ait une différence, hein, qui nous est apparue entre, je reprends votre formule, donc un conte moral écologique, donc vraiment une interrogation sociale, hein, donc du mode d'habitation, alors que Anna, je ne sais pas, hein, si et encore une fois, c'est simplement pour lancer la discussion, hein, donc ne vous semblez pas du tout obligée de répondre, qu'avec le cas de Bonello, la dimension métaphorique fait davantage retour à un processus de création. Hein, donc voilà. Donc est-ce que vraiment il y a une répartition comme ça, sociale et artistique ? Donc on le verra. Une autre dimension, donc, me semble-t-il, hein, qui rapproche vos deux interventions, c'est cette quête donc d'une harmonie. Cette quête d'une harmonie, d'ailleurs, la guerre, la catastrophe, ces désastres collectifs renvoient donc à une introspection donc individuelle. Donc cette quête d'harmonie dans la nature ou donc dans la ville, elle en passe par une prise de conscience. Hein, et là, on aurait peut-être d'un côté, pour Bonello, la nécessité d'aller à l'encontre de la conformité, et pour Hamaguchi, la nécessité de prendre conscience de la culpabilité. Alors, est-ce que après ces épreuves traversées, on accède au bonheur? bonheur. Le bonheur, je le rappelle, n'est pas dans la Constitution française. Donc voilà, peut-être qu'on peut aussi en parler. J'ai été donc bien longue. Y a-t-il, peut-être pour rebondir, des questions dans la salle?
Oui, merci. Moi, j'ai une toute petite question pour Anna qui porte sur l'usage du mot secte. Secte qui, généralement, a des connotations très négatives. Et il me semble que... Alors, d'abord, est-ce que c'est un terme qui est employé dans le film ou non? Ça serait la première question. Et il me semble que, d'après ce que vous avez montré et dit, il est question plutôt d'épanouissement de l'individu, hein, alors que dans une secte, généralement, eh bien, il y a des gourous qui imposent des règles qui vont rarement dans le sens de l'épanouissement de l'individu. Voilà pourquoi je m'interroge sur l'usage que vous avez fait du mot secte.
Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, en fait, le terme secte, il n'est pas utilisé dans le film. Je l'ai utilisé déjà, il y a deux points pourquoi je l'ai choisi. Déjà parce que, effectivement, dans le film, on voit toutes les traits de la secte. Parce que Uma, il est un gourou, on voit son grand portrait dans le manoir. Il impose des règles. Elle dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire à ses adeptes. Et aussi, en fait, le parcours de Bertrand, du personnage principal, il est assez classique pour un adepte d'un secte parce qu'il vend son appartement, il quitte ses amis de la ville, sa famille, sa compagne, sa mère et aussi son collègue Laurent Luca, l'acteur de son film, qui est que Bertrand est en train de tourner, ils essaient de changer son avis pour qu'il revienne dans la ville, pour qu'il abandonne tout ce qui se passe ici parce que c'est bizarre, c'est ridicule. Mais Bertrand insiste. Et sur le côté d'épanouissement de la personnalité, il est aussi présent dans les parcours des adeptes, dans les pratiques qu'ils font, parce que Bertrand devient une partie d'un groupe et il perd un côté personnel. En fait, les gens ne se présentent pas par leur prénom, rarement. Ce n'est pas nécessaire pour eux, pour interagir. Et souvent aussi, il y a des séquences où les adeptes, ils portent les masques des animaux. On ne voit pas leur visage. Et c'est aussi, ce sont les pratiques avec une connotation sexuelle et leur personnalité ne compte pas du tout. Et aussi, j'ai utilisé ce terme parce que le chercheur Emmanuel Didier, le critique, l'utilise aussi. Et cette réglementation de la vie dans le manoir, il ressemble effectivement à un secte.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse très intéressante. Alors, bon, je n'ai pas vu le film. Mais alors du coup, je comprends que finalement, l'épanouissement dont il est question n'est peut-être pas entièrement positif. Enfin, il comporte quand même des aspects que vous venez d'indiquer maintenant dans votre réponse, qui sont des aspects quelque peu négatifs. Mais en tout cas, c'est très intéressant et ça sera bien si vous réintégrez finalement ce que vous venez de nous dire dans l'article.
Oui, sur le côté positif-négatif, oui. Juste une petite réponse, parce qu'effectivement, il est positif du point de vue du personnage principal Bertrand, parce qu'on le voit heureux à la fin du film. Mais si on regarde un peu les interviews, les entretiens de Bonello, il insiste surtout sur le côté comique de ce film, sur l'autodérision, parce que le personnage principal, il est prénommé Bertrand, comme lui-même. Il y a une ressemblance physique entre Mathieu Amalric et Bertrand Bonello. Et souvent, il est un peu déçu parce que, selon lui, ce film, il n'était pas correctement perçu. Les gens le voient très sérieusement, car en fait, lui, il a fait une comédie avec une un côté autodérision très fort. C'est pour ça le côté positif, négatif du parcours de Bertrand, son bonheur, il est assez ambigu, finalement. Oui.
D'accord, donc avec une forte dimension critique, finalement, est-ce qu'on peut dire ?
Critique, oui, et surtout comique, critique. Oui. On se moque un peu du personnage principal quand même, et ses pratiques, on est d'accord qu'ils sont assez ridicules. qu'ils font.
Très bien, merci beaucoup, vos réponses sont vraiment intéressantes.
Merci à toutes les deux pour ces interventions. J'avais une question qui concerne plutôt vous, Aya, mais qui part un peu aussi de notre intervention. C'est que j'ai remarqué que la question de l'harmonie avec la nature est pensée de façon très différente selon les deux films, puisque, comme vous venez de le dire, il y a une forme ridicule, un peu ridicule, dans le fait que l'harmonie dans la nature est vraiment régressive. Ils rampent, alors soit comme des bébés, soit un peu comme des serpents, bon voilà. Même si la dimension de contact n'est pas, une dimension de contact avec la nature et puis avec les autres, qu'il y a parfois aussi chez Hamaguchi, je pense notamment à Senses. Mais alors que chez Hamaguchi, le rapport d'harmonie avec la nature, il va dans, j'ai l'impression qu'il va dans un sens plutôt de maturité. Et d'un retour qui est un retour très mature sur ses propres émotions vis-à-vis de soi, vis-à-vis du couple et vis-à-vis de la nature. Et en même temps, peut-être que c'est une façon d'ouvrir aussi, ce côté régressif et l'ambivalence de la nature, elle est aussi visible dans d'autres films, j'ai l'impression. Vous avez cité Touching the Skin of Uranus et puis Le mal n'existe pas, où le rapport à la nature, il est... Il y a à la fois une beauté, une saleté dans la prestation esthétique de la nature et morale des activités humaines, mais aussi la nature, j'ai l'impression qu'elle a l'air de produire cette ambiguïté morale, puisque c'est à partir de l'eau dans Touching the Skin of Uranus et de la nature de la forêt, du cerf dans Le mal n'existe pas, qu'il y a un acte violent des hommes. Donc, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à dire.
Ah, pardon, c'était quoi la question ?
Oui, pardon. oui. Une question synthétique, c'était...
Merci beaucoup pour votre remarque.
Est-ce que l'ambivalence que vous avez très bien montrée dans Asako 1 et 2 et dans Drive My Car ne se retrouve pas aussi dans le fait que la nature elle-même est ambivalente et a un certain rapport au mal dans la nature elle-même et non seulement dans le rapport des hommes avec l'imaginaire écologique.
Comment dire ? Ben, pour les Japonais, je pense que généralement, la nature, ce n'est pas forcément considéré comme le mal, en fait, parce que enfin, géographiquement, il y a tous les ans, il y a les inondations, les glissements de terrain, comme ça, se produit. Donc, pour nous, c'est normal que la mer attaque les humains. Donc, mais c'est plutôt, je pense que par rapport à votre remarque, Hamaguchi, il est très. Influencé, j'imagine, c'est mon interprétation, Hamaguchi a été influencé par les pensées occidentales. Donc peut-être, peu le cas, pas seulement Hamaguchi, mais nous, les gens contemporains, les jeunes, qui sont peut-être les idées comme ça, plutôt inclinées vers les pensées occidentales, opposant nature, humain, le mal, sale et les humains qui veulent contrôler. Donc, je voulais préciser que après le séisme la catastrophe de 2011, il y a pas mal de publications par rapport à la relation environnementale, aux relations entre les hommes et la nature au Japon. Et il y a un ethnologue à Akasaka Norio qui a remarqué que après, il y a une catastrophe majeure, il faut la reconciliation des cadres de pensée. Donc à ce moment-là, on a très tardivement, on a recommencé de penser, repenser à la question de la relation. Et donc Hamaguchi, les films de Hamaguchi est une sorte de réponse à cette exigence environnementale, écologique et sociale, politique.
Merci beaucoup et puis désolé pour la remarque un peu longue.
Merci beaucoup, j'apprécie.
Mais encore une fois, avec grand plaisir, je remercie toutes les deux intervenantes de ces présentations vraiment belles. J'ai une petite question pour Anna. Dans la guerre, si j'ai bien compris, l'image de la ville est plutôt négative. La ville est représentée comme quelque chose d'effrayant. Mais est-ce qu'il y a des éléments plus ou moins positifs ou peut-être même ambivalents qui caractérisent l'espace urbain? Ou bien c'est négatif?
Merci beaucoup pour ta question. En fait, moi, j'éviterais peut-être le terme négatif positif dans le sens propre. Je dirais que c'est pas 100% négatif parce que quand même, à la fin du film, Bertrand, il se retrouve en ville. La ville, il est le même. Il y a le même son bruyant qui on entend. Tout est le même, mais Bertrand, il est transformé. Il est devenu un autre. Et il me semble que ce sera un peu trop exagérant de diviser quand même proprement la ville, c'est l'espace négatif, etc. Et la nature, c'est que positif. Je dirais que plutôt la ville, il reflète en partie l'état d'esprit de Bertrand au début du film, mais en même temps, après, au cours de récit, nous comprenons que, en fait, l'espace il sera toujours le même. Il se transforme non plus. C'est notre vie intérieure, la vie intérieure de Bertrand qui se change. C'est ça ce qui compte. Voilà. Et cet changement, on peut l'observer vers la deuxième partie du film. C'est assez fluide, ce que je dis là maintenant. C'est pas tout à fait noir et blanc. Je peux sûrement répondre que il y a des choses, comme tu dis, positives, parce que la vie, elle reste, mais ça, c'est le personnage qui change. Je ne sais pas si j'étais claire.
Oui. Si, j'avais une autre question. Merci beaucoup à toutes les deux. J'avais une question pour Anna. Alors moi aussi, j'ai pas vu De la guerre. J'ai vu plein de Bonello, mais pas celui-là, dommage. Mais je vais le voir maintenant. Et ce qui m'a frappé, c'est quand même la dimension très dansée de ce retour dans la communauté, moi je resterai prudente sur la secte, dans la communauté dite naturelle. Et je me demandais si en fait cette dimension très chorégraphiée du rapport à la fois à la nature et à l'autre n'était pas en réalité une étrange façon de parler de la nature, c'est-à-dire une façon très médiée. Pas du tout immédiate de parler de la nature et donc une réflexion beaucoup plus sur la relation de l'art avec la nature qu'une réflexion sur la relation, enfin disons une espèce de rite de cryptie, d'initiation humaine dans la forêt. C'est-à-dire qu'en fait tout passage par la nature me semble être, et c'est peut-être aussi le sens de ce rêve de Apocalypse Now, me semble être un passage par une nature vue par l'art, transfigurée, transformée. Et on peut se poser la question, en fait, de la survivance, la permanence ou pas du naturel dans le monde de Bonello.
Et du social.
Et merci beaucoup pour cette remarque. Effectivement, le côté chorégraphié, c'est un terme très précis parce que le nom de chorégraphe, il m'échappe maintenant, mais il y avait un chorégraphe engagé pour la mise en scène de toutes les pratiques spirituelles. C'est le chorégraphe qui a travaillé aussi avec la réalisatrice Claire Denis. Mais ça m'échappe, son prénom là.
Pour Beau Travail ou...
Oui, pour Beau Travail. Pour Beau Travail. Voilà. Et effectivement aussi, j'ai pensé à ce côté l'art et la nature, l'art comme la partie de la nature humaine. Oui, merci pour cette remarque.
Pardon. Il est allumé. Je me permets, effectivement, moi, c'est la question aussi fondamentale que je me pose par rapport au cinéma de Bonello, c'est-à-dire est-ce qu'on quitte, bon, en dépit des déclarations d'intention en vue d'une radicalité politique, hein, mais bon, c'est du discours, est-ce qu'on, finalement, est-ce qu'on sort de la sphère, hein, je dirais, de... artistique, hein, de la création artistique, parce que la recherche du bonheur, finalement, c'est sortir d'une panne d'inspiration. Donc, c'est comment retrouver l'inspiration artistique. Et bon, et ça, bien évidemment, c'est vraiment sujet à discussion. Et ça vient peut-être montrer la différence. Hein. Non pas que le cinéma de Hamaguchi soit un cinéma engagé, mais il me semble en tout cas qu'il nous engage. Voilà, donc ça, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, ce que vous en pensez, Anna.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Déjà, je pense que le choix de la profession du personnage principal, le réalisateur, ce n'est pas que le côté de l'autobiographie, l'autofiction, de l'autodérision en même temps, mais aussi cette invitation à penser sur la manière, comment on crée des choses. Et aussi... je pense maintenant, il y a des différentes manipulations que Bertrand, le personnage principal, il fait. Par exemple, il y a un côté, il y a un épisode où il y a une longue séquence avec des danses extatiques en plein air après la prise de drogue. Et c'est aussi une manière de créer pour certains artistes ce qui est présent dans ce film. Alors je pense que pas que le personnage principal il traverse une crise existentielle, mais aussi une crise artistique en quelque sorte, parce qu'il est en train de tourner un film. Et ce côté, il est bien montré aussi dans De la guerre.
Je me permets dans ce cas-là de poser une question. C'est un peu... Anna, vous travaillez sur... sur la génétique scénaristique, hein, vous nous avez montré comment est-ce qu'au départ il y avait une envie de western, et quand vous nous avez décrit donc le retour, excusez-moi, hein, je manque de précision, du personnage en ville sur un cheval, moi j'ai pensé à ce film, si ma mémoire est bonne, de Kylie Reichardt. Merci. Quand on a effectivement Lily Gladstone, hein, le personnage de Lily Gladstone sur un cheval qui va donc de son territoire à celui de Kirsten Stewart. Voilà. Mais en fait, je vais poser une question de génétique scénaristique à Aya. Parce que les deux... L'art de la digression. Car en fait, les deux films de Hamaguchi... et corrigez-moi bien évidemment, Aya, me semble-t-il, sont des adaptations à partir donc de nouvelles ou de romans préexistants. Et je voulais savoir si vous aviez travaillé sur donc les choix d'adaptation et qui peut-être vous permettent de faire ce lien entre l'artistique et le réel, entre le passé et le présent, hein, puisque dans votre communication, vous évoquez les risques de catastrophes naturelles au temps présent, en relation, hein, avec cette perspective, donc vous nous avez montré de l'axe de la paix, donc en lien aussi avec toute une tradition donc de catastrophes, soit humaines, 1945, donc soit à la fois naturelle et humaine de 2011. Donc voilà, est-ce que, comme Anna, dans la genèse de l'œuvre et donc dans les choix d'adaptation, cela a alimenté votre réflexion ?
Merci beaucoup. Ah, je dois utiliser ce micro. Ah. Alors, j'ai pas beaucoup travaillé, j'avoue que j'ai pas beaucoup travaillé sur l'adaptation des romans originaux, mais ce qui m'intéresse, c'est que Hamaguchi n'a pas, comment dire, il n'a pas ne pas, enfin mentionné, enfin intégrer la, enfin le fait réel de la catastrophe de 2011 dans son adaptation en filmique des romans originaux. C'est Hamaguchi explique ça dans des entretiens, enfin que ce n'est pas seulement le choix de lui-même, hein, c'est que enfin c'est il y a enfin les producteurs, les co-scénaristes qui a enfin peut-être suggéré l'intégration des catastrophes dans l'adaptation. Du coup, c'est juste ce qui m'intéresse, c'est que enfin comme le cinéma et enfin le travail collectif, donc il y a une dimension collective de pense dans au niveau de la genèse des créations filmiques, mais au niveau de l'interprétation en personnelle, au niveau de spectateur, il y a on a l'imaginaire collectif déjà de la catastrophe, voilà. Par rapport à Sagan 1 et 2, c'est le roman a été écrit c'était sorti un an avant la catastrophe, je me souviens bien, et du coup pour adapter ça au moment de tournage, au moment de la production de ce film, Hamaguchi a pensé que pourquoi pas intégrer, pour adapter, déplacer déplacer temporellement l'intrigue de ce roman au film. Il faut intégrer, voilà, inclure cette dimension sociale, donc voilà. Et Drive My Car, c'est juste, peut-être il y a plusieurs personnes qui connaissent cette anecdote, hein, de Drive My Car. Ça a été créé pendant la COVID, hein, vous voyez. Hein, donc d'abord, Hamaguchi a pensé de faire le tournage à Corée du Sud, à Busan, pour les scènes de théâtre, mais c'était pas possible, et bien évidemment, donc il doit choisir les sites de tournage au Japon, et donc c'était le commission de film de Hiroshima qui a suggéré, donné une proposition pour faire les tournages à Hiroshima, et donc il faut préciser que Hamaguchi a d'abord hésité de faire le tournage à Hiroshima parce que c'est un lieu très, très significatif et chargé des histoires réelles et au niveau de cinéphile également. Hiroshima, mon amour, est à Shustori. Mais voilà. C'est finalement, je pense que c'est très très intéressant. Donc, j'ai dû enlever les parties de mon analyse par rapport à cette scène de usine d'incinération, que le passage, le cloa, c'était, c'est symboliquement le passage temporel à partir de post-guerre mondiale vers au temps contemporain. Donc, on a fait. Ça m'a fait penser personnellement le passage du temps par rapport à la civilisation accompagnée de la contamination environnementale et humaine, animale. Donc c'est très intéressant de Hamaguchi. Je pense qu'il est génie de instinct je pense que c'est grâce à la chef-op de faire intégrer cette manière de tourner comme ça. Voilà.
Merci beaucoup, Aya, pour cette réponse. On a aussi la dimension collective du travail de Hamaguchi que vous avez mise en avant. Carole ?
Oui, merci Aya, merci Anna pour vos interventions tout à fait passionnantes. Je rebondis sur des petits points via la génétique scénaristique qu'a abordé Diane et je vais me tourner cette fois vers Anna, peut-être pour revenir sur deux points qui ont déjà été appréhendés précédemment dans les questions. Il y a d'une part donc cette question effectivement de secte, de communauté. Il me semble, si ma mémoire est bonne, que le terme gourou et que le champ lexical de la secte est quand même assez utilisé dans le film, mais vous allez peut-être même revenir sur cet aspect-là. Mais justement, qu'en est-il dans le manuscrit, puisque vous avez la chance d'avoir accès au manuscrit de Bonello, vous avez aussi la chance d'avoir instauré un certain climat, une certaine complicité avec lui et d'échanger avec lui. Donc peut-être à la fois le texte et les échanges que vous avez avec lui pourraient nous éclairer sur le sujet. Ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, toujours en se focalisant sur les manuscrits, je crois qu'il y a peut-être un ou deux films de Bonello que je n'ai pas encore vus, mais je les ai sinon tous vus. Il me semble que c'est un traitement justement assez atypique dans sa filmographie. Donc est-ce que vous pourriez l'éclairer en le mettant en regard avec le traitement qu'il peut faire de ces questions dans les autres films ?
Merci pour la question. Je reviens sur la secte, le vocabulaire de d'une secte. En fait, je ne dirais pas qu'il est très présent dans le film. Le terme « gourou », par exemple, non plus. C'est plutôt le vocabulaire militaire. Par contre, ils utilisent la guerre, l'armée, etc. Ça, c'est vraiment très marquant et très présent. En ce qui concerne la génétique scénaristique, moi, je n'ai pas du scénario de la guerre. Bonello ne m'a pas envoyé. Par contre, sur... je pense qu'il est, peut-être il n'existe plus sur son ordinateur. Oui, j'ai demandé en fait tout ce que vous avez. Je prends. Voilà. Et... en ce qui concerne la génétique, ce qui était important sur la création de ce film, il me semble, ce que je peux ajouter encore, c'est que ce film il était écrit un peu pour les amis, parce qu'il a voulu écrire un film pour Mathieu Amalric et Asia Argento. Et à partir de ça, il a commencé à écrire, se poser des questions, réfléchir sur certains sujets. Mais c'était une intention de travailler avec Asia Argento et Mathieu Amalric dans le même projet. Et ça a déclenché l'écriture. C'est pour ça, peut-être, c'est mon interprétation, mais ce film, il reste assez fermé pour le spectateur externe. Il est assez compliqué à interpréter, à regarder, parce qu'il y a beaucoup de choses entre les amis et peut-être, du point de vue extérieur, à s'imposer. Je ne comprends pas la motivation interne. Pourquoi ce personnage s'apparaît ici dans ce film Mais effectivement, il y avait une motivation externe. C'est faire travailler ses amis et travailler avec eux.
D'accord. Mais j'ai le souvenir d'ailleurs dans la presse cinématographique de l'époque que le terme qui revenait de manière récurrente, c'était le terme d'OVNI. Et qu'effectivement, c'était un film qui avait déconcerté le public et les spectateurs.
Oui, c'est une grande tristesse pour Bonello parce qu'il dit qu'en fait, pourquoi ? Parce que j'ai tout dans ce film. J'ai Asia Argento, elle était très célèbre à l'époque. C'est le dernier film de Guillaume Depardieu. Il y a Mathieu Amalric qui était très populaire aussi à l'époque. Et pourquoi ça n'a pas marché ? Toujours, il a dit que c'est un de ses films préférés, peut-être à cause de ce destin déchu, peut-être.
J'ai une question à Anna pour rebondir à la question par rapport au secte. Ça m'a fait penser à la question de secte. C'est intéressant parce que ça m'a fait penser à un film de Todd Haynes, Safe. Oui, la protagoniste, elle a expérience de l'angoisse existentielle à cause de. Elle devient très sensible, allergique à la possibilité chimique dans l'air. Donc, elle entre dans. Quelle année ? Dans les années 90, pendant la sida.
Avec Julien Moore.
Oui, Julien Moore. Et donc, c'est, enfin, il y a un code de genre, code de mélodrame, donc il y a une sorte, une dimension de ironie. Donc ça peut être intéressant pour toi. Et du coup, ça m'a fait penser à la question de la secte, m'a fait penser aussi également à la par rapport aussi, également à la formation dans la forêt, c'est les combattants de Tomakai. C'est enfin les, c'est plutôt, c'est assez directement lié à la militant jeunesse qui est inclinée vers la possibilité, l'avenir sombre, apocalyptique, et les enfin très naïfs de faire la formation autonome, de manière autonome avec son ami pendant les vacances et dans la forêt. Donc c'est très intéressant par rapport lié cette question de ces sectes, des formations dans la forêt. Voilà.
Oui, merci beaucoup. C'est nouveau pour moi, je vais regarder. Merci.
Est-ce que vous pensez que peut-être l'expérience du Covid, puisque vous travaillez sur l'intégralité de la filmographie de Bonello, a peut-être changé la représentation de la nature? Et je pense notamment, bien évidemment, à cet espace forestier non identifié dans Coma. Est-ce que vous pouvez, pour conclure, nous en dire deux mots?
Oui, merci. Oui, le film Coma, je le présente très brièvement pour ceux qui n'ont pas vu. C'est le film sur une adolescente renfermée dans son appartement pendant le Covid-19. Et c'est le film que Bonello a fait pendant le confinement dans son propre appartement. À Paris, et il a financé lui-même. Et la forêt de Fontainebleau apparaît dans ce film, dans les rêves du personnage principal, de l'adolescente, qui, du coup, elle n'a pas de prénom. Elle est présentée juste comme adolescente. On voit un peu, dans la mode du jeu vidéo, c'est le premier point de vue, comment elle court dans la forêt. Ce sont ses rêves, et mystérieux, un peu sans explication, mais c'est vraiment une échappée pour elle, pour sortir de son appartement fermé pendant le confinement. Et aussi, juste pour un peu élargir le sujet, en fait, c'est pas du tout la première fois de la guerre, c'est pas du tout la première fois quand la forêt et les espaces forestiers apparaissent dans la filmographie de Bonello. On a eu déjà Thérésia, où une partie de l'action du début du film se passe déjà dans le bois de Vincennes. C'est un film sur un transgenre brésilien qui se prostitue, et il se fait renfermer par un psychopathe, je dis comme ça, qui le prive des hormones, etc. Et voilà, ça incite le sujet du film, que je ne veux pas répéter ici, mais après, oui, Thérésia, elle revient dans les espaces de la campagne aussi, et retrouve la paix. Alors, pour finir, les espaces forestiers, c'est une sorte d'échappée, souvent, pour les personnages des films de Bonello. Une échappée mentale aussi, où ils se retrouvent, où ils retrouvent leurs sensations, les sentiments, leur liberté, et se détachent de la vie réelle. C'est aussi un espace des illusions, où tout est possible. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Ben, s'il n'y a pas de questions, on peut peut-être déclarer cette première session comme close. Et tout simplement prendre notre pause avec un petit peu de temps d'avance. Merci encore une fois aux deux intervenantes et au public.